Radio Kapi.
Les informations, Blaise Shindani Kambala.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. D'abord les titres de ce journal. Pont Ituri 2 effondré, marchandises bloquées, opération militaire perturbée, l'économie et la sécurité de l'Est du pays fragilisée. Ebola progresse dans l'Est du pays, plus de 500 cas confirmés et 91 décès selon les derniers rapports de l'Institut national de santé publique. Ebola, progrès et résistance, trois semaines après la déclaration officielle, guérison et mobilisation se heurtent encore à la désinformation et à la méfiance des habitants. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi sont intervenus sur l'évolution de cette épidémie 25 jours après sa déclaration officielle. D'abord cette information, la coalition C64 informe l'opinion publique qu'elle a décidé de différer le dépôt de sa plainte prévue ce mardi 9 juin contre le président de la République afin d'y intégrer de nouveaux éléments juridiques et factuels apparus au cours des derniers jours, ainsi que des pièces supplémentaires récemment recueillies. Cette plateforme de l'opposition l'a fait savoir dans un communiqué publié hier lundi sur les réseaux sociaux. La C64 dit réaffirmer sa détermination inébranlable à défendre l'ordre constitutionnel et l'état des droits et poursuivra avec responsabilité, rigueur et fermeté toutes les actions nécessaires à l'accomplissement de sa mission dans l'intérêt supérieur de la République, conclut le communiqué. Encore une fois, bonjour à tous. Économie pour commencer ce journal. L'acheminement des marchandises en provenance du Nord Kivu vers plusieurs agglomérations de l'Ituri, de la Tchopo et du Haut-Ouélé, un casse-tête pour le moment. À la base, l'effondrement du pont Ituri 2, situé sur la route nationale 44. Cet ouvrage reliant les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri s'est affaissé dimanche sous le poids d'un camion transportant des marchandises. Conséquence, cet incident affecte déjà les opérations militaires contre les rebelles des ADF, très actifs dans cette partie de la province, alerte la société civile de Mambasa. Il perturbe également l'acheminement des marchandises en provenance du Nord Kivu vers plusieurs agglomérations de l'Ituri, de la Tchopo et du Haut-Ouélé. Détail avec Isaac Remoyope.
10 ans après sa réhabilitation par l'Office des routes, grâce au financement du gouvernement congolais, le pont Ituri s'est effondré dimanche, interrompant totalement la circulation sur cet axe stratégique. Selon la société civile du Congo, plusieurs alertes avaient été adressées aux autorités concernant le non-respect du tonnage autorisé sur cet ouvrage, mais sans succès. Pour cette structure citoyenne, la léthargie des services compétents qui a conduit à l'effondrement du pont, dont les conséquences sont déjà perceptibles. La difficulté pour les phares essaie d'atteindre certaines zones vers Biakato où les rebelles des ADF sont très actifs ces dernières semaines. L'effondrement du pont perturbe également les transports des marchandises en provenance du Nord Kivu vers plusieurs centres commerciaux de l'Ituri, de la Tchopo et du Haut-Ouélé qui dépendent de cet accès routier. Face à l'importance économique et sécuritaire de cette infrastructure, la société civile appelle les autorités à intervenir rapidement pour rétablir la circulation. Marie-Noël Anotane.
Dans moins de 2 ans. Tout ça, ça va encore basculer sur l'économie de la population. Les autorités militaires auront des peines pour faire des interventions rapides dans cette zone qui est aussi à la proie des ADF. Nous interpellons les autorités qu'ils puissent prendre en sérieux cette situation.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
La population de Kisangani, elle, ne sait plus à quel sens se vouer. Le prix des denrées alimentaires ont pris de l'ascenseur sur le marché local. Le prix d'un gobelet de riz, par exemple, est passé du simple au double, c'est-à-dire de 1000 à 2500 francs congolais. Alors que le ministère provincial de l'économie refuse pour l'instant de se prononcer sur les causes de cette surchauffe, les vendeurs évoquent plusieurs facteurs, notamment l'impraticabilité des routes de desserte agricole. Reportage signé Jacques Moukonkolet.
Sur le marché local, le constat est alarmant. Le gobelet de riz qui s'achetait il y a encore peu de temps à 1300 francs congolais se négocie aujourd'hui à 2500 francs. Dans les allées du marché comme au sein des riseries, un constat revient sur toutes les lèvres. L'impraticabilité des routes de desserte agricole qui asphyxie l'approvisionnement de la ville.
On dit que la route est impraticable et difficile pour le moto et les fousseaux d'y accéder. C'est pourquoi les prix des riz ont augmenté, il faut entretenir les routes.
Chez les grossistes, la carence des riz est liée à la rupture des stocks, comme l'explique Donna Eyanga, gérant d'une entreprise d'import et export.
Notre rupture des stocks est due au manque de bateaux. On connaît des pannes sans réparation, alors maintenant il faut chercher des bateaux d'occasion et pour trouver, et ça pose aussi problème.
Face à cette crise, le ministère provincial de l'économie choisit de garder le silence sur les responsabilités de ce dysfonctionnement. L'autorité sectorielle refuse de s'attarder sur les causes de la crise, préférant concentrer sa communication sur les pistes des solutions à envisager.
Les dispositions que nous sommes en train de prendre, c'est demander à ces sociétés-là de passer commande assez rapidement, de manière que leurs dépôts soient ravitaillés.
Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Circuler sur l'avenue de l'université ici à Kinshasa, un autre calvaire. Ce tronçon qui relie les communes de Limété et Kalamu est aujourd'hui fortement dégradé entre nids de poules et eau stagnante. Une situation qui inquiète les usagers et relance les appels à une intervention urgente des autorités. Reportage signé Magloire Landou-Mayemba.
Sur l'avenue de l'université, précisément vers Yolo Médical, la circulation devient de plus en plus difficile en raison du mauvais état de la route. Un important trou qui ne cesse de s'agrandir au fil de jour occupe désormais une grande partie de la chaussée. À cela s'ajoute une forte stagnation d'eau, rendant les passages compliqués aussi bien pour les véhicules que pour le piéton. Face à cette dégradation avancée, de nombreux conducteurs préfèrent emprunter des avenues secondaires pour éviter cette portion devenue presque impraticable. Sur place, habitants et usagers exprime leur inquiétude.
Ces trous étaient petits au départ. Cette route est très importante car elle mène jusqu'au campus de l'université de Kinshasa. Nos autorités passent par ici, mais la route est complètement dégradée. Nous demandons aux autorités de réhabiliter ces tronçons. Les mamans et les élèves tombent souvent dans cette eau sale, ce qui est vraiment triste.
La route s'est détériorée sérieusement. Les véhicules ne peuvent plus circuler normalement et les camions sont obligés d'emprunter les avenues du quartier pour éviter cette route en mauvais état. Cette route qui se détériore pénalise aussi bien les autorités que la population. Il est donc nécessaire qu'elle soit réhabilitée.
En attendant une éventuelle réhabilitation, les habitants craignent une aggravation de la situation avec un risque réel de paralysie totale de cet axe stratégique.
L'épidémie de la maladie à virus Ebola continue de progresser dans l'est de la RDC. 515 cas confirmés depuis le début de l'épidémie et 91 décès dans les provinces de l'Ituri, du Nord et du Sud Kivu. Chiffre publié par l'Institut national de santé publique dans son tout dernier rapport. Ce n'est pas tout. Les autorités sanitaires ajoutent que 283 patients sont actuellement en isolement ou hospitalisés, tandis que 12 personnes ont été déclarées guéries depuis le début de l'épidémie. Benjamin Moudoumbi nous fait le point.
Selon les données officielles, l'épidémie affecte désormais 25 zones de santé sur les 104 que compte le pays. L'Ituri reste la province la plus touchée, avec 17 zones de santé affectées sur 36, notamment Aru, Aungba, Bambou, Bunia, Damas, Geti, Kilo, Komanda, Lita, Logo, Mambasa, Mangala, Mongwalu, Nizi, Nyakunde, Rimba et Rwampara. Dans les provinces voisines, le Nord et le Sud Kivu enregistrent aussi des décès. La zone de santé de Katwa demeure le principal foyer actif avec 11 cas confirmés, dont 8 décès, suivi de Beni avec 100 cas confirmés et 3 décès, Butembo avec 4 cas confirmés et 2 décès. À Mitimuresa, nous sommes au Sud Kivu, 3 cas confirmés et 1 décès. Oicha, 2 cas confirmés et 2 décès. Kalunguta, 1 cas confirmé et 1 décès. Kyundo, 1 cas confirmé et aucun décès. Goma, 1 cas confirmé et aucun décès, précise l'Institut national de santé publique. Ces chiffres interviennent dans un contexte marqué par de nombreux défis pour les équipes des ripostes, notamment l'insécurité persistante dans certaines zones de l'Ituri, les difficultés logistiques liées à l'accès aux communautés affectées ainsi que la nécessité de renforcer la sensibilisation pour lutter contre les rumeurs et la désinformation.
Et puis toujours à l'Ituri avec ce rebondissement, les vols commerciaux de nouveau suspendus à l'aéroport de Bounia. Une décision du gouvernement annoncée depuis vendredi dernier pour évidemment lutter contre la maladie à virus Ebola. mais cette mesure continue de susciter beaucoup d'incompréhension auprès de nombreux passagers. Certains voyageurs qui avaient déjà acheté leurs billets ont vu leur vol annulé à la dernière minute alors que les mesures de prévention contre Ebola étaient appliquées à l'aéroport. Du coup, plusieurs habitants s'interrogent sur cette décision intervenue seulement quelques jours après la levée de la précédente suspension des vols. Reportage Isaac Remoyopé.
À l'aéroport de Bounia, plusieurs passagers ont été contraints de rebrousser chemin ce week-end à la suite de la suspension des vols commerciaux. C'est le cas d'une famille qui accompagnait sa mère à Beni pour des soins médicaux. Arrivée à l'aéroport dimanche matin, elle a appris que son vol avait été annulé à raison de la nouvelle décision gouvernementale. Faute d'alternative, la famille a dû se tourner vers les transports routiers malgré l'état de santé préoccupant de la patiente. Comme elle, de nombreux passagers se disent surpris par cette mesure annoncée seulement 5 jours après la reprise des vols commerciaux suspendus dans le cadre de la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Plusieurs passagers qui s'interrogent sur les mobiles réels des autorités soulignent pourtant que les mesures sanitaires étaient respectées à l'aéroport, notamment les dépistages des voyageurs avant l'embarquement. Pour l'instant, aucune date n'a été communiquée concernant la levée de cette nouvelle suspension. Selon des sources aéroportières à Bounia, cette décision fait suite à des instructions de la hiérarchie en lien avec l'évolution de la situation sanitaire de la province. À ces jours, seuls les vols humanitaires et ceux liés aux opérations de riposte contre Ebola restent autorisés à l'aéroport de Bounia. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
La mobilisation contre Ebola, elle, ne faiblit pas, même ici à Kinshasa. La sénatrice Noëlla Bashe-Bandei, élue de la province de l'Ituri, tire la sonnette d'alarme sur la désinformation et les violences visant les personnels de santé. Dans une communication rendue publique hier lundi à Kinshasa, elle appelle les autorités nationales et provinciales à agir en prenant des mesures urgentes, fortes et efficaces pour protéger la population et freiner la propagation du virus. Elle recommande également de renforcer les capacités de l'hôpital général de référence de Mongwalou, épicentre de l'épidémie. Grâce à Mzati Masanzi.
Dans sa communication, la sénatrice Noëlla Bashe-Bandei s'est dit préoccupée par les rumeurs, la désinformation et les actes de violence qui entravent les efforts des ripostes. L'élu de l'Ituri met l'accent sur la situation des personnels soignants exposés quotidiennement à de nombreux risques. Elle demande au gouvernement de garantir leur sécurité, leur prise en charge, leur motivation ainsi que leur dotation en équipement de protection et en moyens de travail suffisants. La sénatrice attire aussi l'attention sur la situation de l'hôpital général de référence de Mongwalou. Elle demande un appui urgent en équipements médicaux, médicaments, matériel de protection, capacité de laboratoire et ressources humaines qualifiées, estimant que le renforcement de cet établissement est indispensable pour contenir l'épidémie à sa source. Noëlla Bashe-Bandei recommande par ailleurs de renforcer la communication avec les communautés, en associant notamment les leaders locaux et les autorités coutumières, afin de lutter contre les fausses informations. Rappelant que la désinformation, la stigmatisation et les violences contre les équipes médicales aggravent la situation, elle affirme que la lutte contre Ebola exige l'engagement et la responsabilité de tous.
Lutte contre la criminalité urbaine dans la ville de Beni, la MONUSCO lance un projet de renforcement du maillage sécuritaire territorial dans la ville, et ce, depuis hier lundi. Mais en quoi consiste-t-elle? Ce projet d'une durée de 2 mois prévoit la construction d'infrastructures pour 9 postes de police répartis dans les 4 communes de la ville, dont 3 unités dédiées à la protection de la femme et de l'enfant, ainsi qu'à la prévention des violences sexuelles. Nasson Morara, chargé des communications de la police nationale, revient sur l'importance de ce projet au micro de Marc Marofimbo.
Dans le cadre de la police de proximité, il y a certaines infrastructures qui seront construites en faveur de la police nationale congolaise, en faveur du commissariat urbain, juste pour voir comment pallier à cette situation du banditisme urbain et de la criminalité urbaine. Et ce sont les zones les plus criminogènes de la ville de Beni qui ont été ciblées dans ce projet. Un besoin très ressenti par la police nationale. Pourquoi? Parce que la ville de Beni est en train de s'élargir. Et il y a certains commissariats et sous-commissariats qui sont restés dans les centres-villes et qu'il y a d'autres milieux où il fallait que l'on construise certaines infrastructures qui abriteront la police nationale congolaise. Et tout ça, c'est dans le cadre de la police de proximité. C'est pourquoi la police, la MONUSCO, a vu nécessaire que de construire en faveur de la police nationale congolaise ces infrastructures. Ça va facilement juguler. Pourquoi? Lorsqu'il y a des alertes qui nous viennent, la police a des difficultés à répondre. Mais lorsque la police est permanente sur les lieux, l'accessibilité à pallier à ces alertes sera directement constatée par la population.
L'actualité internationale.
Depuis près de 10 ans, les Chebab, un groupe islamiste, terrorise cette région du nord du Mozambique. Riche en ressources naturelles, le Cabo Delgado reste pourtant la province la plus pauvre du pays. La captation de richesses par les autorités et les acteurs étrangers, la violence des forces de sécurité et la corruption ont créé les conditions d'émergence du groupe armé.
L'invité.
3 semaines après la déclaration officielle de l'épidémie d'Ebola Nituri et dans le Nord Kivu, la situation continue de rester mitigée. D'un côté, des évolutions positives, comme la guérison de certains malades et la mobilisation par le gouvernement de la RDC et de ses partenaires d'importants moyens financiers, logistiques et matériels pour renforcer la riposte. De l'autre côté, certains défis demeurent, notamment la désinformation et la résistance de certains habitants aux interventions des équipes de riposte. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi sont revenus sur l'évolution de cette épidémie 25 jours après sa déclaration officielle. On les écoute au micro de Guimate Tsongo.
Docteur Richard Kitenge, vous êtes incident manager adjoint du niveau national de la réponse à la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola en RDC. Au vu de ce qui se passe sur le terrain, peut-on parler d'une évolution mitigée de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en RDC 24 jours après sa déclaration officielle?
Je ne pense pas que ça soit une évolution mitigée, d'autant plus que nous qui sommes sur terrain, nous sommes des experts et donc nous avons la matière entre nos mains, nous avons les stratégies et nous avons l'accompagnement et du gouvernement et des partenaires. Donc nous ne pouvons pas dire une évolution mitigée, mais la mise en œuvre de la réponse et surtout une réponse de cette ampleur prend quelques temps pour s'installer. Donc à ce niveau ici, c'est une mise en œuvre. Nous sommes en train de nous installer, de déployer les nécessaires, et nous déployons les nécessaires en même temps nous ripostons. Et donc ce n'est pas une évolution mitigée, mais c'est juste une mise en œuvre que nous sommes en train de faire. Et dans très peu de temps, ça sera de l'envol.
Voilà, docteur Richard Kitenge, comment vous expliquez cette décision portant suspension des vols commerciaux à destination et en provenance des Bounia? C'est une décision qui vient d'être prise et tout de suite, ça semble, n'est-ce pas, confirmer les allégations selon lesquelles la maladie ne fait que prendre de l'ampleur.
Une décision politique ne peut pas être contredite par les techniciens. Moi, je suis technicien. Je ne peux pas me permettre à interpréter une décision au niveau politique.
Mais est-ce que vous pensez que c'était opportun de prendre une telle décision aujourd'hui avec la manière dont les choses évoluent?
Ma réponse à l'heure actuelle ne va rien modifier parce que la décision est déjà prise et nous ne pouvons que faire avec.
Merci Pele Kaswara Taïgomo, rapporteur de l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Vous qui êtes sur le terrain, qu'est-ce que vous constatez en ce qui concerne l'évolution de cette épidémie 24 jours après sa déclaration officielle en termes notamment de la prise en charge des malades?
Rappelons qu'aujourd'hui, la zone de santé de Rwampara enregistre 147 cas confirmés, dont 14 personnels soignants. Parmi les 14 personnels soignants, il y a 4 médecins et 10 infirmiers, avec plus de 1383 cas contacts. Lorsqu'on voit les centres de transit de l'hôpital général de Bounia, il y a au moins 16 lits pour les cas confirmés, et ces 16 lits sont occupés au moins à plus de 70%, donc on a 11 malades qui sont suivis à l'hôpital général de Bounia. Il y a plus de 21 lits pour les cas suspects qu'on a arrangés à l'hôpital général de Bounia. Au moins 15 lits sont occupés. Vous comprendrez que les taux de participation à la maladie continuent toujours. Il est vrai qu'il y a la forte mobilisation. La prise en charge continue à poser de petits problèmes.
Merci, docteur Anissé Kipassa. Vous êtes expert en santé publique et ancien vice-président du comité scientifique des luttes contre Ebola à Kikwit en 1996. Vous avez évoqué l'infodémie, cette rumeur qui fait que beaucoup de gens continuent à penser que la maladie, c'est une maladie imaginaire. On rappelle que vous avez été impliqué dans la riposte de l'épidémie à virus Ebola à Kikwit en 1996. Vous avez fait certainement face à ces mêmes problèmes, l'infodémie. Comment vous avez pu relever ces défis à Kikwit?
Déjà en 1995, quand nous nous sommes retrouvés devant ces problèmes-là, je voudrais vous rappeler, n'oubliez jamais que ce soit COVID, monkeypox, que ce soit Ebola, retenez la grande caractéristique, ce sont des maladies avec un effet ou avec un impact socio-culturel, social très important. Alors, pour contrôler la rumeur, nous avions, aujourd'hui, nous on parle de l'infodémie, à cette époque-là déjà, avec le professeur Mouyembe, nous avons pensé au bureau des rumeurs. Dans les cadres, je crois, le docteur Mouvoudi l'a dit aussi la semaine passée. Le docteur Mouamba l'a dit aussi la semaine passée. C'est la surveillance épidémiologique à base communautaire. Nous faisons la riposte actuellement en Ituri. Nous devons la faire avec la population. C'est-à-dire nous devons intégrer la population dans ce que nous appelons la surveillance épidémiologique à base communautaire. Ça nous a aidé à contrôler la rumeur.
C'est aussi la fin de notre journal de ce matin, préparé pour vous par Lévin Mbouinga Vubu et mis en ordre par André Mongou.